RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On se replonge 4 ans en arrière. On essaye aussi de voir aujourd'hui quels sont les impacts du confinement. Je vous propose jusqu'à 11h de faire un focus sur le monde du travail. Et s'il y a bien justement un domaine qui n'a pas échappé à la crise sanitaire, c'est le travail. On va s'intéresser plus particulièrement à l'explosion du télétravail pendant les confinements, bien sûr, et qui était maintenu dans de nombreuses entreprises. Alors, qu'est-ce que ça a vraiment changé? Et puis, quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail? On en parle avec nos invités jusqu'à 11h. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Si vous faites du télétravail, est-ce que c'est votre choix? Déjà, première question, est-ce que vous aimez ça? Ou alors, vous aimeriez peut-être revenir un peu plus dans votre entreprise. Parlez-nous également de vos souvenirs pendant le confinement en termes de télétravail. Est-ce que c'était une épreuve de travailler à distance ou alors finalement c'était super sympa? Venez témoigner 04 72 38 20 23. Je m'adresse également aux employeurs qui nous écoutent. Parlez-nous également de votre politique interne en termes de télétravail. 04 72 38 20 23. Vos mails à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, je vous présente nos deux invités. Tout d'abord, Daniel Linhart, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à Je pense donc j'agis. Merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille en studio. Vous êtes sociologue et directrice émérite de recherche au CNRS. Vous avez beaucoup travaillé sur les sujets d'évolution du travail et de l'emploi. J'imagine que depuis 4 ans, vous ne vous êtes pas vraiment ennuyé sur toutes ces questions.
Non, je pas tendance à m'ennuyer même avant, mais c'est vrai que le télétravail a amené un lot d'interrogations et de constats d'ambivalence profonde dans la relation au travail qui sont intéressants.
Et qu'on va pouvoir observer ensemble avec grand plaisir. À vos côtés, Alexandre Desinard, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Alexandre et merci également pour votre présence. Vous êtes écrivain, anthropologue et analyste du monde du travail. Si vous êtes avec nous ce matin, c'est parce que vous êtes l'auteur d'un très récent ouvrage intitulé « La visio m'a tué », sorti aux éditions Alary. C'était il y a quelques semaines, c'était le 15 mars je crois.
Le 14.
Le 14 mars, voilà.
Un jour près.
Quasiment 4 ans, jour pour jour. Après le début du confinement, la visio m'a tué. Alors ça fait suite un peu à vos deux précédents ouvrages, notamment sur l'open space m'a tué. Ça s'est sorti en 2008, et puis également Facebook m'a tué en 2011. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant dans votre ouvrage sur la visio?
Alors, la visio m'a tué, effectivement, arrive après deux m'a tué. C'est une nouvelle révolution parce que ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point, parce qu'on la vit au quotidien, le télétravail et le mode de réunion par défaut qui est devenu la visio ont modifié profondément, ont fait muter le travail. Et j'ai pu le constater en menant une enquête d'anthropologue du travail, en interrogeant des témoins, en épluchant leur correspondance numérique et en interrogeant managers comme collaborateurs, en prélevant des pépites sur LinkedIn. J'ai fait tout un travail auprès de différentes entreprises pour voir pour raconter la vie de bureau quand il n'y en a plus.
C'est d'ailleurs une personne sur ce réseau social professionnel qui vous a un peu donné l'idée.
Oui, ça c'est vrai. Au début, c'était une interpellation, donc anecdotique sur LinkedIn. Quelqu'un qui me dit « Alexandre Desinard, à quand le télétravail m'a tué ?» Alors je me suis dit le télétravail, déjà, les m'a tué, c'est pas forcément une recette de marketing. C'était pas forcément nécessaire. Et c'est vraiment en se plongeant dans le sujet que je me suis aperçu que c'est pas une révolution technologique dont on parle, parce que ça, on aurait pu passer en visio bien avant. Mais à l'occasion du Covid, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler à distance. Oui. Et donc c'était un bien, au début un bienfait, tout le monde est content. Et d'ailleurs j'ai pas appelé ça le télétravail Mathieu, parce que le télétravail est plébiscité par les gens. Mais on pressent un coût humain dans cette révolution des usages. puisqu'il s'agit d'une révolution des usages plutôt qu'une révolution technologique. Le Covid a permis de lever le tabou du télétravail, puisque les entreprises l'auraient jamais imaginé avant. C'était plutôt même déconseillé ou octroyé de façon exceptionnelle.
Daniel Linhart, si on se replonge 4 ans en arrière, si on reprend un petit peu le contexte, le télétravail existait déjà, hein, c'était pas une nouveauté. Par contre, c'est devenu très rapidement, pendant le confinement, une obligation pour de très nombreux salariés en France.
Oui, alors ce qui est intéressant de remarquer, me semble-t-il, c'est que le télétravail était relativement développé dans plusieurs pays européens,
oui,
mais très peu en France. Alors, on peut s'interroger sur la raison qui fait qu'il y avait peu de télétravail en France, et proposer comme réponse que en France, la méfiance réciproque entre les salariés et leurs employeurs est peut-être une des plus fortes en Europe. Et il y avait bien dans l'esprit managérial cette idée que les salariés français, compte tenu d'une certaine histoire de rapport de force, d'idéologie, de lutte des classes, eh bien ces salariés, fallait mieux les avoir sous la main et sous le regard pour pouvoir les contrôler, les contraintes. Donc c'était méfiance absolue vis-à-vis de ce télétravail qui permettait aux salariés d'échapper effectivement à la surveillance sur le lieu de travail. Et puis, grâce, on pourrait dire, à l'expérience de la diffusion obligatoire du télétravail, les employeurs se sont rendus compte que les salariés atteignaient leurs objectifs, travaillaient parfois même plus que ce qu'ils pouvaient travailler sur le lieu même du travail et s'en trouvaient très réconfortés. Du point de vue des salariés, c'est très intéressant aussi, c'est que on peut dire que la mise à distance du lieu de travail a été vécue comme un grand soulagement. Alors, oui, pour une raison évidente, ça maintenait à distance le méchant virus, effectivement. Mais il y avait aussi le fait que, tous les travaux le montraient, la vie au travail, le rapport au travail était plutôt douloureux.
Oui.
Il y avait une diffusion assez généralisée d'un mal-être. On parlait de risques psychosociaux, de souffrances au travail. Et dans les open space, comme ça a été si bien analysé par... j'ai oublié votre prénom.
Alexandre
Desisnard, pardon. Alexandre Desisnard. Effectivement, les ambiances de travail n'étaient pas bien vécues à cause de la mise en concurrence systématique des salariés,
oui,
à cause d'espèces de surveillance réciproque. Bon, sortir de ce lieu où aussi la pression se manifestait, la tension, les évaluations personnelles de la performance, etc. C'était un énorme soulagement. Voilà. Donc très bien, je me sens mieux dans mon univers familier, avec la proximité de mes enfants, de mon époux ou de mon épouse. Donc tout va bien. Sauf que ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une grande ambivalence. Au bout d'un certain temps, les salariés en télétravail se disaient « Mais au fond, qu'est-ce que devient mon travail ?» Avec le sentiment d'une certaine dimension fictionnelle, avoir le sentiment de travailler dans le vide, un sentiment de déréalité, de perdre le point de vue de celui qui coopère avec autrui pour satisfaire le besoin d'autrui. Donc le sentiment d'être dans un grand vide. Et comme le disait Freud par exemple, le travail a une dimension réparatrice parce que il permet de sortir de son esprit, de sortir de ses problèmes, de sortir de chez soi, d'aller dans le monde. Et là, effectivement, certains salariés pouvaient se sentir coupés du vrai monde, coupés de la vraie réalité, avec un sentiment non pas d'ennui mais de vide. Et donc une espèce de balancier entre j'ai envie de retourner, mais là où je veux retourner, c'est pas si bien non plus. Et du point de vue patronal, et j'arrête là, la même ambivalence. Oui, ils travaillent, etc. Ils réalisent leurs objectifs, mais ne faut-il pas quand même pouvoir les remotiver constamment, émettre une certaine pression, etc. Donc je dirais que ce qui caractérise en France le mieux la relation au télétravail, c'est l'ambivalence.
L'ambivalence. Et puis ce grand vide que vous avez souligné, en tout cas au début du confinement, ça, Alexandre Desinard, vous avez pu le relever avec les échanges que vous avez pu créer pour écrire votre livre « La vision m'a tué ».
Oui, notamment en parlant du vide, c'est aussi les bureaux qui se sont vidés.
Ah oui, bah ça c'est bon qu'on puisse dire, oui.
C'est-à-dire que la nouveauté avec un des aspects de la révolution, c'est pour la première fois, on se demande quand on se lève le matin si on va aller au bureau ou pas et si on va retrouver ses collègues. C'est dans une des scénettes, j'appelle ça « Kiké au bureau », c'était le nom d'un groupe WhatsApp que se sont fait un groupe de collègues pour se dire « Voilà, est-ce que toi tu seras là ? Est-ce que toi tu seras là ?» Donc on s'interroge « Ah ben non, moi je dois aller chercher ma fille à la crèche, j'ai ostéo » et on a aménagé chacun son temps. Mais la victime là-dedans, c'est la cohésion des groupes. Pourquoi on revient, et ça fait se poser une question, pourquoi irait-on au bureau quand on est si bien chez soi et que souvent on télétravaille aussi au bureau ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le sein du même immeuble. Le mode de réunion par défaut est devenu la visio. C'est plus simple parce qu'on n'a pas à se demander si telle personne est en télétravail ou pas. Oui. On n'a pas besoin de réserver une salle de réunion. Et ça va beaucoup plus vite que de se rendre dans une salle. Ce qui fait que du coup, on peut enchaîner les visios et de façon assez mécanique, sans prendre le temps même de changer d'une salle à l'autre. Donc, une obsession. Oui, pardon.
Vous dites ça aujourd'hui ? Parce que ça s'est organisé, mais au début du confinement, c'était pas du tout comme ça que ça se passait.
Non. Si vous parlez du début du confinement, non. C'est maintenant qu'on essaie d'organiser et que les entreprises essaient de faire revenir les gens au bureau et d'animer ça. Simplement, le problème, c'est que les moments d'émulation, de cohésion se sont déportés sur les espaces numériques. Donc, on prend maintenant des cafés sur WhatsApp. Pour résumer la chose, beaucoup d'échanges se font sur WhatsApp entre collègues. On poursuit les débats quand on fait après un after work ou après un séminaire. On continue à communiquer les week-ends, ce qui fait qu'en fait, on ne sait plus tellement où est le travail.
Oui.
Quand on peut travailler partout. Et ça veut dire que le travail est partout. C'est pas forcément le confort qu'on gagne. Mmh. Y compris donc chez soi. On se retrouve, quand on est chez soi, on se retrouve à domicile. On est dans une zone où, en fait, on enchaîne le travail. Mais on se retrouve, comme disait Daniel, avec ses enfants à proximité ou son conjoint. Et on n'a pas forcément. On est la première génération où les enfants assistent au travail au bureau de leurs parents. Moi, quand j'étais petit, le bureau de mon père, il travaillait dans la banque. C'était un mystère. C'est nouveau. Donc, comment gérer ça ? J'irai aussi avec ambivalence, parce qu'on ne sait pas. Ce sont des nouvelles choses qu'il faut arriver à analyser, à savoir comment être bien avec ça.
Daniel Linard, vous vouliez réagir, je crois.
Mais oui, moi je trouve qu'il y a aussi un phénomène qui a entraîné le télétravail, c'est le fait qu'on n'a plus de bureau à soi. La plupart du temps, sur le lieu de travail, parce que pour faire des économies de bureau, le monde ne vient pas ensemble. Voilà. Donc,
c'est ce qu'on appelle le flex office.
Tout à fait. Voilà. C'est le flex office. Ce qui veut dire que dans certains cas, il faut réserver la veille par mail ou par SMS son bureau, comme on réserve une table au restaurant ou comme on réserverait une place dans le train. Et donc, ça veut dire que même quand on retourne au bureau, on n'est pas sûr d'être près de ceux avec qui on travaille, de ceux auprès de qui on aimerait être. Et je dirais que la conséquence la plus importante et à mon avis la plus dramatique, c'est que on ne se sent plus chez soi dans l'entreprise. Parce que il faut demander la permission, la possibilité de revenir et on ne sait pas où on sera posé, on n'a pas de lieu affecté, donc on se sent comme un étranger. Et ça, je pense que c'est quand même dramatique, surtout du point de vue des employeurs, parce que ils souhaitent avoir des salariés qui s'identifient à leur entreprise, à la marque, etc. Or là, on a quand même une sorte d'éloignement des salariés de leur entreprise en tant que non seulement lieu de travail, mais aussi produit ou service rendu avec une communauté professionnelle et des modes de fonctionnement partagés. Oui. Donc là, c'est quand même... Et je pense que du point de vue des salariés, ça agrandit le malaise du fait de ne pas se sentir chez soi dans son travail. Alors, comme disait tout à l'heure Alexandre, effectivement, le travail est partout, mais on est chez soi nulle part. Parce que même quand on est à la maison, on se dit, je suis pas entièrement chez moi puisque je travaille et que j'appartiens.
C'est la même chose pour les vacances. Les gens partent en vacances travailler. On appelle ça maintenant les tracances.
Ah oui,
et
c'est ça.
C'est inconfortable et pour soi parce qu'on n'arrive pas vraiment à déconnecter pour profiter de ce lieu de villégiature. Et les gens qui sont avec vous, les vrais plaisanciers, ils entendent des visios et ça les met dans une ambiance de travail. C'est pas forcément. Et donc, mais pour revenir sur le flex office, oui, je voulais juste ajouter.
Donc, flex office, juste pour vraiment bien définir pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce terme, ça veut dire on est dans l'entreprise physiquement, mais par contre on n'a pas vraiment de bureau officiel
attribué.
Voilà, exactement. On est un petit peu où il y a de la place. Voilà.
Et oui, c'est ça. Et on vient s'il y a de la place, parce qu'on peut avoir envie de venir et ne pas pouvoir parce qu'il n'y a plus de place.
Alors, comme les bureaux sont désynchronisés, c'est un peu le corollaire du télétravail. Ce cas-là, le cas où il n'y a plus de place, est plutôt rare. Mais ce qui est amusant à voir, c'est le sentiment d'appropriation qui reste chez les salariés, il y a des stratégies d'occupation.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que les gens laissent... Parce que le soir, normalement, quand on est en télétravail, c'est un système donc, de non-attribution des places. Et le soir, on doit faire place nette. Donc, on a ces affaires qu'on met dans un casier. On a le droit à un casier, mais on n'a pas le droit, en tout cas, d'installer son tableau, sa plante verte sur ses ustensiles.
Ses photos, surtout.
Ses photos, voilà. Ouais. Mais... on le fait quand même. On laisse un petit chargeur d'iPhone ou une veste sur le dossier pour prendre place. Et puis, ce sont pas toujours des vrais flex office qui ont lieu. On maintient quand même un zoning dans la plupart des entreprises. C'est-à-dire que on garde les différents départements pour qu'il n'y ait pas au moins, donc ce que j'appelle, c'est un flex office un peu fixe, un flix. C'est plus dans la pratique.
Voilà. Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole ce matin dans Je pense donc j'agis pour apporter vos témoignages. On parle, vous l'entendez, du télétravail à la fois pendant le confinement il y a 4 ans et puis maintenant, bien sûr. Dites-nous si vous télétravaillez, pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est votre choix ou alors c'est plutôt l'entreprise qui vous l'impose? Quels avantages trouvez-vous? Quels inconvénients également? Et puis parlez-nous aussi de ce que ça apporte chez vous, dans votre foyer, avec votre conjoint, votre conjointe. Est-ce que ça a un impact sur votre vie relationnelle, votre vie de famille? 04 72 38 20 23.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec nos deux invités jusqu'à 11h, Alexandre Désinard, je rappelle que vous êtes écrivain, anthropologue et analyste du monde du travail et vous êtes l'auteur d'un très récent ouvrage intitulé « La visio m'a tué », sorti aux éditions Alary. Et puis Daniel Linhart nous accompagne également, sociologue, directrice émérite de recherche au CNRS et vous avez beaucoup travaillé et vous travaillez encore d'ailleurs sur les sujets d'évolution du travail et de l'emploi. Je vous lis un message de Max qui nous a laissé par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Mettre sans cesse en avant le télétravail est aussi une façon d'invisibiliser et minimiser les classes laborieuses, nous dit-il, souvent les fameux premiers de cordée qu'on a beaucoup utilisé d'ailleurs pendant les confinements, qui représentent un bon tiers des travailleurs. Moi, je trouve ça très intéressant, Daniel Linhart, parce que ça nous permet de dire que tous les travailleurs ne télétravaillent pas, ne peuvent pas télétravailler, et puis surtout que ça dépend énormément aussi des catégories. Je sais que les cadres avaient plus tendance à télétravailler avant le confinement, et toujours d'ailleurs, quand d'autres, c'était un peu plus compliqué.
Oui, évidemment, on pense directement aux ouvriers du bâtiment, aux ouvriers en usine sur chaîne. Bon, ça, c'est effectivement impossible de télétravailler. Mais ce qu'il faut voir aussi, et ça nous montre la complexité du rapport au travail, c'est que les gens qui ne peuvent pas télétravailler, en tirent parfois un sentiment de... qu'on pourrait dire d'héroïsme. Enfin, en tout cas, pendant la période du Covid, ceux qui allaient au front en tiraient une certaine fierté. Alors, certes, ils auraient bien aimé être protégés comme les autres, comme les télétravailleurs, mais le fait d'aller au travail, au contact du dangereux virus, mais aussi être dans le fer, dans la matière, il y avait une dimension qu'on a bien retrouvée dans les hôpitaux, les magasins. On est là, on sait à quoi on sert, on est indispensable, on a un vrai boulot, on est vraiment inséré dans la société, on est légitimé par le rôle qu'on y joue. Et ça, je dois dire que par rapport aux autres, aux télétravailleurs, c'était considéré comme un plus. D'ailleurs, on applaudissait les soignants tous les soirs de nos fenêtres. Donc, effectivement, ils pouvaient avoir le sentiment d'être moins préservé, moins protégé. Et c'était pas d'ailleurs qu'un sentiment, c'était une réalité. Mais en même temps, le sens du travail, on pourrait dire, augmenté à leurs yeux. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose de très très important dans le rapport au travail. C'est à quoi on sert ? Quel est le sens de notre travail ? Et là, il apparaissait de façon encore plus plus forte, plus importante.
Alexandre Desinard, dans votre livre, alors vous racontez plusieurs histoires à titre d'exemple, à titre d'illustration. Parfois, c'est assez amusant sur des situations de télétravail, sur des discussions également, des chats hein, qu'on utilise énormément. Avec une question aussi qui revenait beaucoup, mais où sont-ils tous passés ? Et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur les bureaux se sont vidés. Ça a été marquant. Ça a été parfois extrêmement difficile aussi pour certains salariés de se dire, mais je suis tout seul au bureau, il n'y a plus mes collègues, ils sont chez eux, on n'arrive plus à se voir.
Oui, c'est vrai. Alors le titre auquel vous faites référence montre à quel point on est passé dans une nouvelle ère et peut-être un gap de génération dans le sens qu'il y a ceux qui sont nés qui ont connu les réunions présentielles et ceux qui sont arrivés sur le marché du travail à l'ère de la visio, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés
à partir de 2020.
Covid, ouais. À partir du Covid, voilà. Ouais. Et donc, du coup, pour eux, la réunion par défaut, pour ces jeunes-là, c'est la visio. Et donc, dans la scénette auquel vous faites allusion, c'est une entreprise qui accueille le marketing d'une entreprise qui accueille une agence de publicité qui vient sur place, qui se déplace avec 15 consultants. Et les gens, on a réservé une grande salle et seulement 10% de l'entreprise d'accueil est présente, seulement 10 personnes sur les 60. Le reste, c'est connecté à distance, derrière son ordinateur. Simplement, on se rend compte au moment du déjeuner, ils descendent prendre les plats au repas, qu'en fait, ils s'étaient tous connectés à distance, mais depuis le premier étage.
Ah oui.
Cette anecdote faussement anecdotique montre à quel point on a changé d'air, parce qu'il y en a qui ont connu l'ère du présentiel et d'autres non, et qui ne voient pas un mal à ne pas se déplacer dans la salle, puisqu'ils sont bien plus confortables que leurs deux écrans. Et ça se défend. C'est juste une question de point de vue et d'expérience, en fait.
Bonjour Solange.
Bonjour.
Bienvenue, merci de nous écouter du côté de Grenoble. On vous écoute.
Voilà. Écoutez, moi j'étais professeur, je suis âgée à la retraite maintenant. Eh bien, j'étais professeure du côté de Grenoble, effectivement, et j'ai toujours fait du télétravail, comme tous les enseignants du secondaire, au collège ou au lycée. On n'a pas de bureau dédié pour faire nos travaux au collège ou au lycée, donc on fait du télétravail à la maison. On est à la maison, on corrige ses copies, on prépare ses cours. Et ça prend beaucoup plus de temps que le temps passé au collège ou au lycée. Et moi, ce qui m'intéresse, je comprends que là, c'est tout nouveau pour vous, mais pour la majorité des gens qui sont comme ça, mais pour les enseignants, c'est quelque chose, j'allais dire, qui est normal.
Oui, mais... Oui. Solange, permettez-moi de me faire l'avocat du diable, mais il y a une différence entre corriger des copies à la maison et donner des cours depuis chez soi, depuis la maison. C'est quand même différent pour un enseignant, je pense.
Alors oui, bien sûr, mais surtout les dernières années, on était relativement quand même en connexion avec ses élèves. Oui. Il y avait des choses qui se passaient entre le prof et les élèves. Il y a longtemps que je suis à la retraite, mais je vois parmi mes enfants qui sont aussi dans l'enseignement, eh bien, je vous assure qu'il y a des connexions qui sont. Alors, effectivement, c'est pas la même chose. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est mon témoignage, c'était surtout au niveau de la vie familiale. Parce que vous avez parlé de la vie familiale. Eh bien, pour moi, donc, je ne dis pas que ce soit pour tout le monde, mais pour moi, ça a été très, très bénéfique.
Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Solange, pour votre témoignage au 04 72 38 20 23. Daniel Linard, je vous ai vu prendre des notes en écoutant Solange. C'était intéressant, c'est vrai, de nous rappeler que, alors, dans certaines professions, travailler à la maison, ce n'était pas du tout nouveau, ce n'est pas une découverte pendant le confinement.
Oui, mais alors là, j'aimerais mettre un bémol quand même, parce que, certes, il y a le travail de correction des copies à la maison,
ça,
mais il y a quand même...
Ouais.
c'est une chose. Mais il y a quand même le face-à-face avec les élèves dans la classe qui prend la moitié du temps. Et à la maison, on prépare ce face-à-face. C'est pas un travail qui est déconnecté justement de cette interaction réelle avec les élèves. Donc c'est quand même, c'est un peu différent, je dirais. Certes, il y a des moments où ils peuvent avoir une interaction visuelle, télévisuelle avec les élèves au sujet de tel et tel cas. Mais quand on corrige des copies, on va les restituer aux élèves, on va leur expliquer leurs notes, etc. Donc, ce qui est quand même le cœur du métier, c'est la classe, c'est ce qui se vit au gré du temps, où on voit justement les élèves, on les voit s'améliorer, on les voit. Bon, c'est pas du tout comme un cadre qui est confronté avec son logiciel en permanence et qui a un sentiment de dépendance totale. Parce que, si vous voulez, ce qui moi me frappe, c'est que le télétravail, ça accentue une dimension qui est en train de se développer dans le monde du travail, c'est-à-dire justement, on en parlait tout à l'heure, l'individualisation, la personnalisation de la relation de chacun à son travail, la mise en concurrence, c'est-à-dire le fait que des collectifs se soient totalement délités. Si on reprend l'exemple de la dame, de ce professeur, effectivement, il y a les salles où les professeurs se rencontrent, discutent, déjeunent ensemble. Bon, le télétravail, c'est un isolement réel de chacun. Chacun, et c'est normal, se trouve confronté avec son ordinateur, avec son écran, et commandé par un logiciel. Moi, j'aurais tendance à dire que ce qui caractérise comme le contrat salarial, à savoir le lien de subordination, il devient de plus en plus personnalisé quand on télétravaille. On est seul face à l'autorité, aux contraintes professionnelles, on est guidé par son logiciel. Et voilà, on a, à mon avis, j'ai pas fait suffisamment d'entretien pour pouvoir affirmer ça, mais il y a un sentiment d'impuissance plus marqué encore quand on est chez soi que quand on est dans le lieu de travail, parce que tout seul, on peut effectivement rien changer. Tandis que sur le lieu de travail, on peut dire avec des collègues, bon, il y a tel et tel aspect qu'il faudrait améliorer, qu'on pourrait changer, on pourrait en discuter avec le N+1, etc. Là, il y a vraiment... Et ça se caractérise par un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement, de solitude et de perte de sens du réel.
Alexandre Desinard, on va marquer une pause dans un instant, mais je voulais juste revenir sur ce que disait Solange, sur la vie familiale avec ce télétravail. Moi, ça me fait penser à un chapitre dans votre livre où justement c'est un couple qui se réveille le matin et puis la copine découvre que son copain fait du télétravail le jour même et qu'elle n'était pas au courant et que ça la perturbe un petit peu. Ça a changé quelque chose aussi dans les relations.
Oui, parce que donc comme je disais, c'est la première fois que les enfants voient leurs parents télétravailler au bureau, donc puisqu'ils les voient sous les yeux. Et ben c'est pareil aussi pour le conjoint et la conjointe. Et finalement dans cette scénette là, on n'a pas forcément envie d'avoir des personnes de son entourage proche d'être vues par eux. Donc la personne en l'occurrence, elle est enseignante et elle aime pas trop que son copain la voit en train d'enseigner. Et parce que elle est avec sa classe et elle a un rapport, elle a une manière de parler, elle a pas envie qu'on l'entende. Et ça c'est nouveau, donc on l'entend. Donc elle est furieuse quand il passe dans la pièce, elle est complètement paralysée face à ses élèves alors que d'habitude elle est très à l'aise. Et en revanche, elle entend son copain discuter très à l'aise en visio avec ses collègues.
Et ça l'énerve.
Et elle découvre une personnalité qu'elle aurait préféré ne pas découvrir. Il est un peu arrogant, quoi.
Et allez, puis, on va marquer une petite pause, Daniel Linhart et Alexandre Desinard. Il y a plein de choses à dire, vous inquiétez pas, on a encore une demi-heure. Vous continuez de nous appeler également, comme Solange, au 04 72 38 20 23. Si vous faites du télétravail, dites-nous ce que ça vous apporte, si vous aimez ça ou si vous n'aimez pas ça. Et puis, qu'est-ce que ça a changé également dans votre entreprise? Si vous êtes employeur, bien sûr, vous êtes le bienvenu au 04 72 38 20 23.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
10h30 dans Je pense, donc j'agis. On parle du télétravail ce matin avec nos deux invités, Daniel Linhart et Alexandre Desinard. Et bien sûr, avec vos témoignages, vos réactions au 04 72 38 20 23. Parlez-nous du télétravail. Est-ce que vous aimez ça ou pas du tout. Parlez-nous également de ce que ça a changé dans votre entreprise. On vous attend et on vous accueille à l'antenne.
Sur les mains, on suivait les étoiles et c'était bien. Quand le jour se levait, on lui disait merci, merci d'être repassé par ici. Quand nos yeux se fermaient, sur un dernier soupir, on n'avait pas l'impression de mourir.
Des humains, c'était le chanteur Mickey 3D en ce jeudi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Une émission consacrée au télétravail jusqu'à 11h avec Daniel Linhart. Je rappelle que vous êtes sociologue, directrice émérite de recherche au CNRS et vous travaillez sur les sujets d'évolution du travail et de l'emploi. Avec nous également Alexandre Desinard, écrivain, anthropologue et analyste du monde du travail et puis également auteur d'un récent ouvrage intitulé « La visio m'a tué » sorti aux éditions Alary. Clément est avec nous. Bonjour Clément.
Oui, bonjour Daniel, bonjour Alexandre, bonjour Melchior.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, alors moi je suis salarié à Paris, et je pratique le télétravail depuis le début de ma vie professionnelle, donc il y a 3 ans environ. J'en vois plusieurs avantages. Du point de vue du travail, je suis plus efficace, on est moins déconcentré, on fait moins de pauses, il y a moins de discussions avec les collègues, le déjeuner est plus rapide, donc c'est plus de tranquillité. On gagne en productivité au global, et puis du point de vue perso, c'est du temps de trajet avec la pénibilité associée qu'on connaît en région parisienne, du temps de préparation également, puisqu'on n'a pas la même tenue quand on est en télétravail. Donc moi le matin je l'affecte à du sommeil supplémentaire, le soir je l'affecte à du travail supplémentaire. C'est vraiment gagnant-gagnant pour l'employeur et pour moi. Ça me permet aussi de réaliser quelques petites tâches ménagères, et puis ça permet, si les conditions sur place le permettent, d'anticiper un départ en week-end, donc c'est... Et on peut y gagner sur le prix des billets de train. Puis, dernier avantage, c'est financièrement moins cher en termes de repas, en termes de transport pour ceux qui viennent en voiture, et puis en termes de frais de pressing. Ça peut être anecdotique, mais mine de rien, la fin du mois, c'est tabou.
Ça joue.
Ça peut faire des frais. Et puis, du point de vue des inconvénients, alors c'est qu'au début, et ça on le ressent surtout quand on est junior, la confiance, elle est pas forcément évidente. Donc, on a tendance à en faire un peu plus. Il faut montrer qu'on est là, quoi. Les échanges sont moins naturels qu'en présentiel. Pour poser une question, on n'a pas forcément le réflexe à chaque fois d'appeler le collègue pour lui poser une petite question. On ne peut pas savoir si les gens sont occupés ou pas, contrairement au bureau. Et puis l'intervention d'une réunion, elle est quand même plus complexe parce qu'on a plus de mal à montrer qu'on veut intervenir. Il faut aussi avoir de bonnes conditions de travail à son domicile, donc au niveau du bureau, du matériel informatique, de la connexion Internet. Alors c'est mon cas, mais je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde et c'est pas forcément évident dans les petites surfaces, comme il y en a pas mal à Paris. Et puis dernier point que je trouve assez anecdotique, oui. Mais mine de rien, c'est assez important, c'est que je fais pas mes 10 000 pas par jour, contrairement à quand je vais au bureau en transport en commun, parce que mine de rien, les transports ça fait marcher. Et donc pour rester en bonne santé, je pense que le télétravail 5 jours par semaine, c'est pas une bonne idée. Donc mon avis général, c'est que c'est une très bonne chose, mais il faut que ça reste,
occasionnel.
Un jour par semaine, voilà, exactement.
Eh ben écoutez, Clément, merci beaucoup. Je pense qu'on peut arrêter l'émission parce qu'il a tout dit. Il y a énormément d'avantages, d'inconvénients. C'est très intéressant. Merci Clément qui habite à Paris, région parisienne. Ça a son importance également dans le témoignage parce que je pense qu'en fonction également de la localisation, c'est pas la même chose pour tout le monde. Quelqu'un qui habite peut-être à 30 km de son lieu de travail et qui doit prendre la voiture tous les jours, bien sûr. Que ça va avoir un impact et parfois des changements très positifs de pouvoir faire du télétravail. Plus efficace, nous dit Clément, moins de discussions, on est peut-être plus opérationnel, plus de qualité, moins de temps de trajet. Ça, c'est ce que vous avez pu soulever, Alexandre Desinard, vous, dans votre livre « La visio m'a tué ».
Oui, c'est très très bonne analyse des pour et contre du télétravail. Et d'ailleurs, moi, je m'engagerai pas sur un débat pour ou contre le télétravail,
oui,
parce que c'est un mode de travail qui est installé. Je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Et on peut essayer. Les entreprises négocient peut-être le nombre de jours et c'est des aménagements, des négociations. Ce sont des négociations. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ce mode de travail installé, qu'on le réfléchisse et qu'on y pense. Parce que ça affecte nos liens et nos manières de travailler ensemble.
Oui.
Comment on va pouvoir faire ça? Comment on va le faire? Comment on va transmettre? Moi, j'ai une scénette où il y a un alternant. On demande souvent en entreprise aux alternants de venir travailler sur place. Et mais simplement, un mardi, il vient parce que... Et tout son service, tous ses N+1 et sa tutrice sont en télétravail. Donc, comment on organise cette transmission quand les autres ne sont pas là? Comment... D'ailleurs, on organise cette transmission tout court. J'imagine que quand on commence à faire un stage en entreprise et qu'on est en télétravail, on apprend quand même peu de choses sur l'esprit, la culture de l'entreprise.
Alors ça, c'est d'ailleurs Clément en a parlé, puisque il a commencé à travailler à peu près il y a 3 ans. Peut-être qu'il était en stage ou en alternance avant, mais en tout cas un premier emploi. Quand on est junior et qu'on doit faire du télétravail, ça change la donne, Daniel Linhart, peut-être?
Ah oui, alors là j'ai pu faire quelques entretiens avec des jeunes qui étaient en master à l'université de Nanterre et qui faisaient des stages. Et ils disaient que le télétravail, c'était pour eux une catastrophe parce que ils n'avaient aucun accès, disaient-ils, à la culture de l'entreprise, aux anciens qui auraient pu transmettre des conseils, etc. Et ils se sentaient vraiment pas immergés dans l'entreprise. Donc ils se sentaient privés de quelque chose d'absolument important. Et je voudrais rebondir sur cette question parce que, quand même, ce qui me semble être très important sur les lieux de travail, on pourrait dire malheureusement, les collectifs de travail. Les collectifs de travail qui étaient informels, c'est-à-dire, disons, une dizaine de personnes qui sont dans la proximité, dans un bureau d'employés ou dans l'usine, et qui figurent pas dans les organigrammes, mais qui sont des lieux qui établissent un certain nombre de règles du jeu, notamment de sociabilité, d'entraide, de solidarité, de convivialité. Et ce qu'on pouvait voir, c'est que pendant les périodes très difficiles, des 30 glorieuses, où il y avait beaucoup de travail à la chaîne et des conditions très dures, eh bien, la souffrance, elle était un peu gérée collectivement. Disons, les difficultés, la dureté des conditions de travail étaient gérées collectivement. Et il y avait aussi cette idée de on est un peu en capacité de faire une action collective,
oui,
et d'imposer un micro-rapport de force. Là, l'éclatement total que représente le télétravail, ça fait que chacun est confronté à ce qui est devenu le travail, c'est-à-dire une épreuve solitaire. Il faut résoudre tous les problèmes dans son coin, il faut trouver toutes les solutions. Et le danger, et moi, il me semble que ce jeune homme en témoigne d'une certaine façon.
Absolument.
C'est d'en faire trop, d'être obligé d'en faire trop. Il
le
dit,
se sentir
le soir,
obligé d'en faire
il dit,
trop.
On me fait confiance, il faut que je montre qu'ils n'ont pas tort de me faire confiance. Donc le soir, je travaille plus, le matin, je travaille plus. Et il y a toujours cette idée d'être sur le fil du rasoir, de faire ses preuves, de montrer que, bon, on tient le coup, on n'a pas besoin des autres pour travailler, qu'on est la bonne personne, comme on dit maintenant. Et ça, c'est vraiment un danger, parce que chacun dans son coin risque d'être dévoré par le travail pour montrer toujours que, voilà, il reste à la hauteur et on peut lui faire confiance, on peut continuer de miser sur lui. Et moi, j'ai senti ça en filigrane dans les propos de ce jeune homme. C'est quand même qu'il en fait beaucoup. Et c'est possible parce qu'il est jeune. Mmh. Je ne sais pas s'il a des enfants, je ne sais pas s'il est marié, enfin, ou s'il a un compagnon, une compagne. Mais le fait est qu'on a l'impression qu'il a effectivement la possibilité de partir en week-end, etc. Mais la semaine de travail, ça n'a pas l'air simple. Hein. On le voit, on déjeune plus rapidement, le soir, on travaille plus longtemps. Bon, et comme il le dit, l'employeur est très content. Mais ça, c'est une des dérives possibles.
Alexandre Desinard, je vous ai vu prendre des notes également quand Clément nous disait que parfois, les réunions en visio, c'était très compliqué avec des personnes qui n'avaient pas toutes les mêmes connexions internet. Ça, c'est, je pense que voilà, dans votre livre, ça revient souvent le problème des visios qui où tout le monde veut parler et finalement ça devient un brouhaha assez général.
Oui, c'est-à-dire que la première chose qu'on se dit en visio, c'est pas bonjour, c'est vous m'entendez.
C'est vrai ça. J'en ai une juste après l'émission.
Et la dernière, c'est quand est-ce qu'on se verra pour de vrai.
Oui, c'est vrai, on se voit en présentiel, qui est plus un pléonasme. Et y a aussi l'auditeur a parlé aussi de manque de fluidité. C'est-à-dire que quand on parle finalement en visio, on est obligé quand même d'attendre que le paquet de numérique de son propos arrive jusqu'à l'autre, et donc on est obligé finalement de s'arrêter de parler, donc du coup ça perd en fluidité, en naturel, et donc du coup c'est la mort des apartés, c'est la mort des petites blagues, c'est beaucoup plus convenu et c'est beaucoup plus théâtral, donc c'est fatigant d'être en mode performance au sens anglais du terme, jouer un rôle derrière la caméra, surtout qu'on demande de l'activer souvent. Et encore, en tout cas, quand le N+1 l'active, on l'active. Quand le client l'active, on l'active. Et donc voilà, donc c'est ce genre de questions. Et la dernière chose, je voulais juste rajouter dans une visio qui est assez, je trouve assez brutale, c'est le côté qu'il n'y a plus cet effet de seuil quand on termine une réunion. On clique sur quitter maintenant et boum, on se retrouve tout seul après avoir partagé un moment collectif. Et alors que d'habitude, on débriefe. Alors bon, souvent, quelquefois, les collègues se rappellent derrière pour débriefer, mais c'est moins naturel. Il y a à chaque fois une chose supplémentaire à faire, comme disait l'auditeur, à chaque fois pour essayer d'interpeller quelqu'un, on ne sait pas s'il est là puisqu'on le voit pas. Tiens, je peux me demander un truc. Mais l'avantage, c'est qu'en échange, on n'est pas forcément dérangé. Donc, pour le travail en profondeur, c'est peut-être une bonne chose par moment de télétravailler.
Si je peux rajouter quelque chose là-dessus, c'est que effectivement la question du débrief, c'est très important et on l'a pas du tout dans le cas de la visio, mais le problème c'est que ça déborde sur les vraies réunions maintenant. J'étais très surprise quand je vais dans des réunions de labo d'avoir des moments de réunion où on est tous en présentiel comme on dit et où on échange des choses importantes, où des gens viennent pour une séquence courte nous informer sur des choses très importantes. Et après, il n'y a pas de débrief. Et moi, je me souviens, la dernière fois, j'ai dit, mais on ne débriefe pas ? Et tout le monde dit, ah bon ? Ah ouais ? Ah d'accord. Ben, on a perdu cette idée même du débrief en présentiel. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommageable.
Le débrief, parfois, on le faisait à la machine à café, tout simplement, en disant, qu'as-tu pensé de la réunion ?
Tout à fait, c'était fondamental. Ouais. Et puis, alors, une autre chose que je voudrais rajouter, qui n'a rien à voir, mais je trouve, c'est que les enfants ont souvent le sentiment que quand leurs parents travaillent à la maison, ils ne travaillent pas.
Ah oui.
Parce qu'ils sont en réunion tout le temps ?
Oui. Non, parce qu'ils sont à la maison.
Ah oui.
Parce que pour les enfants, papa et maman vont au travail. Ils partent, ils mettent leur manteau, ils s'en vont au travail. Et là, ils sont à la maison. Et souvent, on entend les enfants dire, les parents, ils foutent plus rien, quoi. Bon, parce que ça, c'est un aspect. Bon, c'est pas gravissime, mais quand même, c'est quelque chose à prendre en considération, cette sorte de credo que le travail, enfin, il y a deux deux lieux, deux moments distincts que sont le travail et la vie privée.
Ouais. C'est fini.
Et c'est fini. Ouais. C'est fini. Alors, et ça, c'est pas évident. C'est pas évident.
Ouais. Parfois, ça se passe très bien. Attention, hein, le télétravail. Et je pense à ces réunions qui sont bien organisées, c'est-à-dire avec un maître du temps qui va essayer, qui a les sujets à l'avance un peu et qui va être capable de dire attention, là, on a pris 10 minutes au lieu de 5. Il faudrait peut-être qu'on aille plus vite sur l'autre sujet. Oui. Quelqu'un qui pousse un petit peu à prendre des décisions. Ça, je trouve ça assez positif, Alexandre Desinard, de se dire que, bah, voilà, peut-être que pendant, allez, hop, 2 ans, 2-3 ans, le télétravail un peu imposé, notamment pendant les visios, ça a été un peu compliqué à gérer. Maintenant, ça y est, c'est en train de devenir quelque chose d'assez naturel, finalement.
Oui, on est encore aux prémices. Hein, mais,
oui, vous pensez que c'est pas encore vraiment acté?
Non, que ce mode de travail est acté, mais par contre qu'on réussisse vraiment à se synchroniser et à s'organiser et à être maître du temps, il faudrait plutôt y réfléchir dans le sens que, d'ailleurs, c'est pas seulement un problème de visio, c'est aussi un problème de tous ces outils collaboratifs, Slack, Teams et Google Meet et compagnie, sur lesquels on échange beaucoup par écrit, on se parle beaucoup par écrit et on s'interrompt beaucoup par écrit. Et donc, il faudrait arriver. Ça rejoint un peu ce que disait l'auditeur, à se synchroniser dans les moments où on partage, les points synchro, comme on dit souvent, et les moments où on accepte de laisser l'autre travailler sans le déranger, ou en tout cas, on ne l'oblige pas à répondre aux messages qu'on lui a envoyés. Et ça, souvent, c'est pas toujours accepté quand on reçoit une notif sur Teams de son sur N+2, on se sent obligé de répondre tout de suite, même si on est concentré sur un travail. Et le temps de concentration, ça prend du temps, ça prend 30 minutes de se mettre en mode profondeur, on appelle ça le flow, et j'ai une scénette dans le livre qui s'appelle un consultant en flow qui essaye justement d'organiser ça au sein de l'entreprise, mais ça ne veut pas dire qu'il va réussir à organiser les habitudes aussi de des prestataires de l'entreprise, les clients, parce qu'on est tous en mode une ruche hyperactive à distance, on se multiplie, et en plus quand on a le sentiment de ne pas exister à distance, on a tendance à surinvestir les endroits de participation numérique pour donner le sentiment d'exister.
Je vous lis un message de Philippe qui nous a envoyé par mail. La découverte du télétravail a obligé à s'organiser, améliorant ainsi le rendu du travail. Beaucoup de télétravailleurs à temps dédié sur la semaine renouent avec la vie dans son foyer. Cela supprime des temps de déplacement et fait gagner en confort quand c'est possible pratiquement. Ça rejoint un peu ce que nous disait Clément tout à l'heure. Mais on note aussi que les professions qui sollicitent l'intégralité du corps, les professions physiques, ne peuvent avoir accès au télétravail. Y a-t-il un risque d'insatisfaction, pardon, ou de jalousie? Ça, je trouve ça intéressant, Daniel Linhart. Je prends mon exemple, parce que moi, je suis tous les matins à l'antenne. J'ai pas le choix. Je peux pas être chez moi. J'ai pas de studio chez moi. Ben ça, parfois, ça peut être assez particulier d'arriver le vendredi matin avec peu de personnes dans l'entreprise. Est-ce que vous pensez que, à long terme, cette finalement inégalité en termes de présentiel, de télétravail, peut créer une forme de défiance, voire de jalousie entre les salariés?
Mais ça risque de créer un éloignement en termes de valeurs, de représentation. Effectivement, on va avoir deux corpus distincts. Les uns qui peuvent travailler en pyjama chez eux douillettement, et puis ceux qui se lèvent pour aller au travail. Mais cela dit, il faut accepter que c'est pas quelque chose de nouveau. Regardons les horaires. Quand vous avez des ouvriers qui vont travailler à 5h ou 6h du matin, qui travaillent en équipe, qui travaillent de nuit, on a déjà des conditions qui sont totalement inégales. Donc, je ne suis pas convaincue que ça soit perçu comme quelque chose d'injuste de plus, mais comme une sorte de, comment dire, de fractionnement de la société. Il y a véritablement les cadres, les ingénieurs, les employés d'un côté, et puis les ouvriers, les gens, les paysans, les agriculteurs, pardon. Enfin, bon, on sait que les conditions de travail ne sont pas les mêmes, de la même manière que les rémunérations ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, je ne sais, on n'a pas encore les éléments pour dire est-ce que ça va renforcer peut-être des consciences de classe comme on disait auparavant. Est-ce que le télétravail, je crois qu'il y a un phénomène aussi dont on ne tient pas compte, c'est que malheureusement, les gens qui travaillent dans, par exemple, dans les villes et qui sont, qui travaillent dans le bâtiment, oui, qui travaillent ouais. dans, ils n'ont pas des logements très, très confortables. Et l'idée de, on l'a bien vu pendant le confinement, l'idée de rester chez eux n'est pas quelque chose qui les séduit énormément. Ils se sentent peut-être plus à l'aise à travailler, avec des espaces qui correspondent à leur activité professionnelle. Je crois que la question de la qualité du logement, elle joue beaucoup aussi. Oui, et on voit bien, je dirais plutôt que ça concrétise des inégalités, plutôt que peut-être ça n'en accroît. Ça les rend plus visibles, ça les concrétise. Mais c'est vrai que c'est pas la même vie, hein. Quand on est cadre supérieur et quand on est ouvrier du bâtiment ou caissière dans un supermarché, c'est pas pareil.
Oui. Un message d'Eva qui nous dit « Je suis en télétravail, non pas par choix, mais à cause de ma santé. En situation de handicap, la médecine du travail a préconisé un aménagement de poste en 100% télétravail. J'ai appris à travailler à la maison. J'apprécie de plus en plus de ne plus être confronté à ce milieu professionnel, parfois nocif par certains côtés. Il y a aussi plus de tranquillité pour moi, mais le plus difficile, c'est cette forme de mise à l'écart par rapport là au handicap. Je crois que beaucoup de travailleurs en situation de handicap sont aussi en télétravail, accentuant pour certains cet isolement, surtout quand il s'agit d'un handicap invisible qui n'est pas compris par les collaborateurs. Et elle nous dit, Eva, je suis tout à fait d'accord avec Clément, décidément Clément va le recruter, sur la sédentarité et sur l'efficacité et les avantages. Là aussi, Alexandre Dizinard, ça rejoint la première partie de Je pense donc j'agis. On soulevait un peu les inégalités en fonction des catégories. Alors j'aime pas ce mot de population. Chez les travailleurs, c'est pareil. Hein. Il y a des travailleurs qui peut-être n'ont pas le choix. Le télétravail, ça, c'est une obligation pour eux parce que handicap ou parce que l'employeur le décide.
Oui, surtout en situation de handicap. Effectivement, j'imagine que donc pour cette personne, le quotidien des réunions, c'est en visio. Et probablement avec des personnes qui parfois peuvent être de l'autre côté en présentiel. C'est-à-dire qu'elles peuvent trouver des collègues en présentiel et être à distance. Et ça donne ce qu'on appelle les réunions hybrides. Et c'est ce qui est reconnu comme étant le pire des modes de réunion, dans le sens où ceux qui sont à distance se sentent exclus de ceux qui ont la fluidité de la conversation présentielle, puisqu'ils peuvent ajuster en fonction des corps des uns des autres. C'est plus fluide, c'est en mode vraie conversation. Et donc, c'est ce sentiment, je voulais rajouter ça par rapport au témoignage que vous avez de votre auditrice.
Oui.
Sur le fait que les réunions hybrides sont un mode de réunion qui n'est pas optimal parce que les présentiels sont fatigués de devoir s'adapter à la difficulté de les inclure dans la réunion parce que ça va moins vite. On est obligé de prendre le temps. Alors, t'as bien entendu et tout ça. Et ceux distanciels qui se sentent écartés.
Alors, un chiffre. J'aime bien les chiffres. Daniel Inard, vous allez le commenter. L'absentéisme serait passé de 39% en présentiel à 12% avec le télétravail. Comment on peut l'expliquer, ça?
39%, ça me semble beaucoup. Chiffres qui sont... Oui, bon, peu importe. Il a baissé. Mais l'absentéisme a baissé avec le télétravail.
Oui, absolument.
Oui, écoutez, c'est pas étonnant, puisque si on est malade, on peut continuer à télétravailler.
Une enquête, le 39%, je précise, c'était une enquête en 2019, voilà. Ça me paraît très élevé, mais c'est les chiffres qui reviennent.
Hein. D'accord, d'accord. Mais c'est pas du tout étonnant, parce que si on est malade, on peut continuer à travailler à la maison, il n'y a pas de raison. Si, par exemple, on s'est foulé la cheville ou cassé la jambe, rien ne vous empêche de travailler de la maison. Donc, c'est tout à fait normal que l'absentéisme diminue. Mais moi, je voudrais, de façon plus générale, dire que quand même, je suis un peu gênée par le fait que, par exemple, les gens handicapés, c'est mieux s'ils restent chez eux. Je pense que c'est important pour eux aussi de pouvoir partager le monde extérieur avec les autres, de pouvoir se retrouver avec les collègues, de sentir la cordialité, la chaleur des relations. Moi, je crois qu'il y avait aussi une enquête qui était faite et qui montrait que beaucoup de personnes handicapées souhaitaient aller au travail et ne souhaitait pas être reclus ou exclus. Ça, c'est un point qui me semble important. Et le deuxième point qui va avec, c'est que on ne doit pas considérer leur relation au travail uniquement sous l'angle de l'efficacité et la performance. On sait très bien le rôle socialisateur, le rôle vraiment important dans la vie des gens que représente le travail. On travaille 7 heures par jour pendant 5 jours de la semaine et donc les conditions de partage, de contribution. Le travail, c'est coopérer avec autrui. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut maintenir, le sens du travail, le fait que travailler, c'est prendre pied de façon légitime dans la société. Et donc, préserver toutes ces dimensions qui sont des valeurs sociales, c'est extrêmement important aussi. Mmh. On ne peut pas dire uniquement c'est plus performant. C'est vrai, les gens ne perdent pas une heure de transport pour l'aller, une heure de transport pour le retour. Il y a des femmes qui disent qu'elles ne perdent pas du temps à se maquiller, à s'habiller pour aller au travail. C'est vrai, mais le travail, c'est aussi un lieu commun où on partage des moments, des difficultés, des satisfactions. C'est quelque chose qui est fondamentalement socialisateur. D'un point de vue sociologique, on ne peut pas ne pas considérer le travail sous ces aspects. Oui. Et d'imaginer une société totalement atomisée où les uns et les autres vont travailler de façon éparpillée, de plus en plus éloignée, c'est vraiment quelque chose qui fait peur. Et ça me fait penser à un livre qui a été écrit par des écrivains du futur qui s'appelle Au bal des actifs. Je sais pas si vous connaissez ce livre qui est absolument passionnant parce qu'il préfigure une société où tout le monde est cloisonné chez soi et on voit une absence de relations, une absence de il y a plus de cohésion sociale, il y a plus de liens sociaux. Donc le travail, c'est pas que de la performance, de l'efficacité minute par minute,
il y a le relationnel, c'est aussi, ouais.
C'est aussi un monde d'expériences communes, de socialisation, de partage et de sentiments de contribution aussi pour la pérennisation de la société et son développement. Et c'est, je dirais, et je m'arrêterai, un lieu où on doit se poser aussi la question des enjeux fondamentaux. Maintenant, nous sommes quand même à un croisement historique, un virage historique, où on doit se poser la question du travail vertueux du point de vue des ressources de la planète. Bon, si les gens sont éparpillés comme ça, où va-t-on débattre? Où l'intelligence collective va-t-elle pouvoir s'exprimer? C'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, me semble-t-il.
Et la tendance en 2024, c'est d'observer quand même que les employeurs ont envie de freiner un peu l'open bar du télétravail, en tout cas en essayant de le cadrer beaucoup plus, en essayant de mettre en place des chartes de télétravail et en essayant de faire revenir un petit peu les salariés au bureau. Un dernier mot pour vous, Alexandre Desinard, pour votre livre La Visio m'a tué. Qui doit le lire?
Tout le monde. Tout le monde. C'est grand public, ce sont des anecdotes, donc du coup c'est qui permettent d'ouvrir la réflexion sur ces nouvelles manières de travailler, cette mutation que nous vivons actuellement. Donc, elles ouvrent le débat. Donc, j'aimerais bien que ça puisse être lancé.
Et je vais le lire avec le plus grand intérêt.
Exactement. Et vous pouvez, parce qu'il est très accessible et surtout, il est très frais puisqu'il est sorti il y a quelques semaines. La Visio m'a tué, aux éditions Alary. Merci beaucoup, Alexandre Desinard, d'avoir été avec nous. Merci. Daniel Inhart, merci également pour votre participation, sociologue, directrice émérite de recherche au CNRS. Et vous avez étudié les sujets d'évolution du travail et de l'emploi. Merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueillait, à Baptiste, à Nicolas, à Catherine, à la réalisation. On se retrouve demain pour finir la semaine à 9h, le Presse Club, avec une meilleure voix, et à 10h, votre émission de jardinage préférée. Prenez-en de la graine. À demain.